Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin, ce lundi matin, est Armel Delesquin, membre du bureau des Républicains d'Ille-et-Vilaine, en charge de la campagne des Européennes pour le nord du département. Il est également conseiller municipal délégué à Saint-Malo. Il a fait la route pour être avec nous en direct ce matin dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler ce matin de politique et des Européennes. On le dit tous, hein, nous les journalistes, dernière ligne droite de ces européennes, une campagne qui a été, on l'aura compris, assez éprouvante pour tous les candidats, dans un climat, on y reviendra sur le climat tout à l'heure, qui n'a pas été simple non plus, avec des listes un peu à la peine. C'est le cas de celle de François-Xavier Bellamy que vous soutenez. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi il n'arrive pas à percer?
Alors déjà, ce qui ne fonctionne pas, alors je sais pas, ce qui ne fonctionne pas précisément, c'est multifactoriel évidemment, mais déjà je pense qu'il y a un gros sujet sur l'intérêt que nos concitoyens portent à la campagne des européennes. Mmh. C'est à mon sens le premier point, c'est comment est-ce qu'on réussit à fédérer et à intéresser nos concitoyens, en leur expliquant que les européennes sont une élection très importante et que c'est même peut-être la plus importante des élections. On oublie que près de 90% des lois sont en fait des transfuges de décrets européens qui s'appliquent aux États. Et donc, voter pour les députés européens est fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Alors après, concernant François-Xavier Bellamy, je pense que déjà les sondages sont une chose et la réalité en est une autre. Donc
on reste
bien
prudent.
Je suis prudent. Et puis je pense que effectivement, oui, il y a beaucoup de listes. On a le Rassemblement National notamment. Vous avez évidemment Valérie Ayer qui sont devant, qui bénéficient probablement, notamment sur le Rassemblement National, un espèce de ras-le-bol des Français qui se disent, eh bien, puisque on n'a pas tout essayé, on n'a jamais voté Rassemblement National, eh bien, on va essayer. Ce que je leur dis d'ailleurs, c'est que c'est faux. Vous voyez, pas plus tard que ce week-end, je tractais et j'avais ce discours de la part de certaines personnes qui me disaient, nous, on va voter Rassemblement National parce que on en a marre et on veut que ça change. Je leur dis, mais vous savez qui a gagné les élections européennes il y a 5 ans? Ah non, non. Ben c'est le Rassemblement National, vous savez, et largement. Ah bon, ah bon. Et il y a 10 ans, vous savez aussi, non plus. Et c'est le Rassemblement National aussi. Et donc, je pense que les Français se trompent, pensent qu'en votant au Rassemblement National, ils verront un changement profond. C'est faux. C'est faux parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le Rassemblement National, au sein du Parlement européen, n'a pas beaucoup agi, malgré le fait qu'ils étaient très nombreux. Et voilà, je pense qu'on pâtit un petit peu de tout ça. Mais encore une fois, la dernière ligne droite est là, et c'est pour ça qu'on est tous engagés et qu'on y croit, parce que je suis convaincu que la campagne de François-Xavier Bellamy est très bonne, et puis surtout, son programme est le seul qui soit véritablement en phase avec les réalités et les attentes de nombreux Français.
On l'annonce en tout cas comme un programme pragmatique, hein. On va en détailler quelques lignes tout à l'heure, on ne pourra pas tout balayer évidemment en 28 minutes d'interview. Néanmoins, on a l'impression quand même que cette campagne des Européennes, nonobstant le climat, et là je vais y revenir dans un instant, mais on a l'impression que c'est un premier tour, une forme de primaire de l'élection présidentielle.
Oui, peut-être. Après, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce ne sont pas des élections présidentielles. C'est très différent. On vote pour une liste. Mais c'est vrai que peut-être que les Français, et d'ailleurs, je les comprends, ont tendance à vouloir mettre tout sur le même pied, sur le même plan, et se dire, on en a marre, qu'on aille à droite ou à complètement à gauche, on veut que ça change, et donc on va voter pour des gens qui ne sont pas, entre guillemets, du clan habituel des politiques de gouvernement, et donc on s'oriente vers de l'extrême droite, ou surtout vers de l'extrême gauche. Moi, je vais vous dire, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'extrême gauche qui propose un modèle de société qui est très inquiétant, qui propose un modèle de société où la place de la France, à mon sens, n'est pas bonne. On a une remise en cause permanente du rôle de la France. Je crains que beaucoup d'ailleurs de ces militants n'aiment pas beaucoup la France. Et c'est inquiétant parce que au sein de l'Union européenne, des parlements, de la Commission, si vous n'êtes pas capable de défendre votre pays pour permettre à vos citoyens de mieux vivre, eh bien, je pense que vous tombez dans un piège parce que les autres parlementaires des autres pays, eux défendent au sein de l'Union européenne leur nation. Et donc, si on n'est pas capable d'aimer notre nation et de la défendre au sein de l'Union européenne, l'idée n'est pas d'être contre les autres. L'idée, c'est d'apporter au sein des institutions, eh bien, notre spécificité française et donc de pouvoir justement porter une parole de conviction. Et c'est d'ailleurs ce que fait François-Xavier Bellamy. Mais voilà, encore une fois, à gauche, c'est pas ce qui se passe. Et pourtant, beaucoup de gens se disent... C'est eux qui vont nous aider et c'est eux qui vont porter notre voix. Ils se trompent.
On a le sentiment depuis le 7 octobre, depuis cette attaque du Hamas, cette attaque terroriste contre les Israéliens, que quelque chose a basculé. Alors, dans nos sociétés plus largement, ici en France, on a vu LFI, la France Insoumise, s'emparer de la cause palestinienne avec des manifestations quasiment quotidiennes à Paris, dans d'autres villes de France aujourd'hui. On a l'impression qu'on entend plus parler de la Palestine finalement que de la chose européenne.
Oui, là aussi, on est dans des postures. Alors, c'est dramatique, hein, ce qui se passe actuellement, évidemment, à la bande de Gaza. Alors, je suis allé, moi, deux fois en Israël, et c'est vrai que on ressent évidemment ces tensions depuis longtemps. Et quand vous discutez avec des Palestiniens, des Israéliens ou des personnes qui y vivent et qui sont des étrangers, c'est évidemment, personne n'est surpris. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que on est binaire bien souvent, et notamment LFI ou autre, on est 100% à soutenir une population palestinienne qui souffre évidemment, mais de manière dramatique, c'est sûr et certain. Et en fait, en prenant fait et cause pour la Palestine, en réalité, ils soutiennent le Hamas. Et en parallèle, on tape sur les Israéliens. Qui se défendent suite à ce qui s'est passé en octobre dernier. Et ça, on l'oublie. Et donc, là où on devrait être, à mon sens, dans une logique de discernement, où on devrait essayer de comprendre comment on peut aller de l'avant et comment on peut finalement mettre une certaine pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des centaines d'otages et d'enfants, familles, qui sont prisonniers au sein du Hamas et qui sont probablement traités de manière très rude. Et en parallèle, évidemment, vous avez un Benjamin Netanyahou qui est suivi par toute une troupe de personnes qui veulent se venger. Et on peut les comprendre sous certains points. Je ne cautionne pas, évidemment, la vengeance. Mais je dis que cette vengeance existe. Et donc, ça crée d'énormes tensions. Et c'est ça qui est très compliqué sur ce conflit. C'est que, encore une fois... Beaucoup de gens au sein de nos politiques sont sur des postures en étant soit tout gris, soit tout blanc, soit tout noir. Non, je pense que malheureusement la vérité elle est un peu au milieu et qu'il faut être capable de comprendre les interactions, les positions de chacun et que notre outil diplomatique, qui d'ailleurs je suis convaincu est particulièrement impliqué et lui n'est pas naïf sur ce qui se passe, puisse œuvrer et essayer de trouver une solution la plus raisonnable possible.
Voilà, nuancé, toujours et encore. On entend des voix à droite chez LR, on les entend aussi chez Reconquête ou encore le Rassemblement National, des voix qui pointent du doigt la France insoumise et particulièrement Jean-Luc Mélenchon sur ses prises de position, sur cette culture du chaos, en tout cas c'est le terme employé. Là aussi c'est quelque chose d'inquiétant avec ce climat, là encore.
Ah oui, vous l'avez encore vu la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec ce député qui brandit un drapeau palestinien. J'ai envie de poser la question, là, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de faire cet esclandre? Ce qui se passe, c'est effectivement qu'on est face à une extrême gauche, LFI ou autre, hein, peut mettre aussi un peu parfois les écologistes sur certains points, qui prennent des positions qui, à mon sens, sont extrémistes, eh bien, ils veulent exister et ils ont choisi un espèce d'étendard qui est dangereux. Il y a une espèce de fonctionnement avec notamment avec l'islamisme en France, faut pas le nier, qui est inquiétante, qui est inquiétante.
Il y a l'ombre
parce
des
que,
frères musulmans. Hein.
Évidemment. Mmh. Et puis, je ne sais pas si c'est une naïveté ou un calcul politique, mais je peux vous dire que on est tous convaincus que les frères musulmans ou l'islamisme ne partagent pas un quart des idées politiques de la France insoumise. Ce n'est absolument pas leur tasse de thé, je dirais. Le traitement, voilà, la manière dont la femme peut être traitée, les attentes de la France insoumise sur plein de sujets, hein, de société en France, une certaine liberté, je pense. On peut parler de l'homosexualité, on peut parler de la place de la femme, on peut traiter de la liberté des gens. Je pense qu'ils ne partagent pas du tout des points communs. Donc c'est très étonnant. Je pense que c'est évidemment éminemment politique.
C'est un calcul électoraliste,
finalement. J'en suis persuadé, oui, j'en suis persuadé. On le voit tous. Et malheureusement, c'est un jeu dangereux, là aussi. C'est un jeu dangereux parce que ça n'apportera rien. Ça va probablement perturber nombre de nos concitoyens qui sont, pour la plupart, je pense, dans une certaine, peut-être, naïveté ou une tolérance naïve par rapport à ces mouvements. Et donc, je suis assez inquiet parce que, encore une fois, ils représentent une part non, qui est relativement significative de nos citoyens, de nos concitoyens.
De l'autre côté de l'échiquier politique, on a l'extrême droite, le RN, Reconquête, le RN qui a le vent en poupe, le Rassemblement National avec des promesses, alors là encore, des intentions de vote assez élevées, en tout cas c'est ce que disent les sondages, là encore on va les prendre avec prudence, comme chaque sondage, on rappelle c'est une photographie à un moment précis de la vie politique et des intentions des électeurs, mais voilà, le fait est que de nombreux sondages se recoupent et on donne 32% d'intentions de vote aujourd'hui pour le Rassemblement National. On a vu hier le meeting de Jordan Bardella qui a drainé de nombreux jeunes. Comment la droite traditionnelle républicaine se situe et comment elle vit cela ?
Oui, alors évidemment, personne ne peut ignorer les scores, en tout cas attendus, du Rassemblement National. Si vous voulez, la droite républicaine Comment est-ce qu'on réagit ? Mais on réagit de la manière la plus optimiste possible. On se bat, on essaye de convaincre nos concitoyens que nous proposons une vraie alternative, contrairement à ce qu'on croit. Ça fait depuis des années que la droite républicaine n'est pas au pouvoir, en réalité. Donc elle a changé, on a de nouveaux éléments, je pense évidemment à François-Xavier Bellamy, qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais aussi on a, je pense, à David Lisnard, qui est un homme politique que je suis particulièrement, qui est incroyable.
De nouvelles voix en
Bretagne, on a Isabelle Le Callennec aussi, que certains connaissent, qui est la maire de Vitré, qui est une personne extraordinaire, qui est impliquée, qui est tout à fait modérée sur plein de positions, mais qui a beaucoup de convictions aussi. Donc on a un parti qui est renouvelé, je pense, pour une partie des cadres, mais qui a du mal, effectivement, peut-être, à se faire entendre, en tout cas à être identifié comme tel par nombre de nos concitoyens. Donc après, oui, voir le Rassemblement National à plus de 30%, là aussi, c'est inquiétant, et en même temps, quelque part, j'ai envie de dire que c'est rassurant. Pourquoi ? Parce que, alors, l'idée n'est pas de choquer nos auditeurs, mais je suis convaincu que vous avez une grande partie des gens qui vont voter à Rassemblement National qui, en réalité, sont des gens de droite et qui ont les mêmes convictions que nous, mais qui n'ont plus confiance en nous, qui n'ont plus confiance dans les Républicains parce qu'on a probablement déçu, il faut qu'on fasse notre examen de conscience, on n'a probablement pas su convaincre. Donc on a un gros travail dessus, mais ça veut dire que c'est des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on soit bon, c'est qu'on prenne les sujets. et qu'on se mette au boulot.
Ce matin, j'avais un auditeur qui m'envoyait un petit mot en disant « Vous avez un invité de chez LR, posez-lui la question, pourquoi LR a copié la gauche ?»
Ouais, peut-être que on a peut-être un petit peu oublié. Alors le LR n'a pas copié la gauche, mais en tout cas le LR a peut-être eu du mal avec ses propres convictions. Mmh. Peut-être qu'on a eu du mal à assumer nos convictions. On est tombé, évidemment, mais ça c'est les années précédentes. Hein, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années que la droite républicaine tombe dans le piège de la gauche en permanence. Mmh. D'accord, on n'a pas le droit de parler d'immigration parce que vous êtes traité de facho, de raciste en permanence, ce qui est totalement faux. L'idée, évidemment, c'est justement d'avoir une immigration raisonnée et de pouvoir accueillir les immigrés en France dans de bonnes conditions, c'est de les traiter humainement, de bien les traiter. Et ce n'est absolument pas ce que propose par exemple la gauche qui veut une immigration massive, mais avec des gens qui seront évidemment dans des situations dramatiques, maltraités. On peut parler de tous les gens qui arrivent dans nos banlieues françaises et qui sont dans des logements qui sont insalubres ou autres, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui, parce que les Français, je suis désolé, mais payent déjà beaucoup d'impôts et ne peuvent pas accueillir plus qu'aujourd'hui. Donc nous, on est sur cette, là aussi sur ce discernement par rapport à l'immigration, qui évidemment, sur un certain point, et j'entends là aussi, moi je suis chef d'entreprise, mais on entend notamment des restaurateurs ou autres qui disent on a besoin d'immigration pour, notamment sur des postes de cuisinier, de serveur ou autre.
Donc la main d'œuvre finalement.
Une partie de la main d'œuvre. Évidemment, l'idée n'est pas de tout fermer, mais l'idée est que ce soit contrôlé, d'accord ? Et que ce soit suffisamment supportable pour le pays, qu'on puisse bien les accueillir.
Il voilà, y a des problèmes de sécurité également. Hein. Souvent, on lit ces problèmes de sécurité à l'immigration. En tout cas, un récent sondage a amené les Français à le penser, ou en tout cas à ressentir ce problème d'insécurité avec l'immigration. Alors là, il faudra un peu plus de temps pour peut-être creuser la question en profondeur, mais il y a un problème d'insécurité aujourd'hui en France. Alors, il ne s'agit pas de pointer tel ou tel autre, mais ce sentiment aussi, aujourd'hui, on a l'impression amène la population à se durcir, à dire voilà, on veut changer de société.
Oui, probablement, et on peut en comprendre certains qui vivent dans des endroits qui sont des endroits où l'insécurité règne en permanence, qui ne peuvent pas élever leurs enfants dans de bonnes conditions, qui ont peur avant d'aller prendre leur voiture le matin parce qu'ils ne savent pas si elle ne va pas avoir été rayée, abîmée, caillassée ou autre. Donc oui, on les comprend. Alors après, évidemment que le lien entre l'immigration et l'insécurité existe. Je veux dire, on est encore dans une naïveté et là, pendant des années, on nous a interdit de le dire. Mais ça ne veut pas dire que les immigrés sont tous des gens qui sont irresponsables et qui sont tous des racailles. Ce n'est absolument pas ça. C'est de dire qu'il y a une partie de la population immigrée qui fait une grande partie de l'insécurité. Pourquoi ? Parce que on a ouvert effectivement les vannes peut-être de manière trop importante sans avoir cette capacité à bien les intégrer et en faire des Français.
Il y a eu une forme de dérapage,
si vous voulez. Il y a eu probablement une forme de dérapage, une forme de naïveté et encore une fois, vous savez, c'est très étonnant parce que aux États-Unis par exemple, moi je reviens des États-Unis où j'ai habité encore l'année dernière. Quand vous avez des gens qui sont immigrés qui arrivent aux États-Unis, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter un drapeau américain et ils vont le mettre devant chez eux. Ils sont très fiers de devenir américains. D'accord ?
Vous imaginez en France ?
En France, moi, je me bats, par exemple, pour, quand je vois des drapeaux français qui sont dans un état de déchirés partout. Dans plein de bâtiments publics, les drapeaux sont en lambeaux. Enfin, bref, et passons. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes immigré et que vous arrivez aux États-Unis, les Américains sont tellement fiers et tellement patriotes de ce qu'ils sont que vous n'avez, vous, qu'une seule ambition en tant qu'immigré, c'est de devenir Américain parce que vous voulez faire partie de cette nation et vous allez l'aimer. Vous allez probablement d'ailleurs transmettre cet amour du pays à vos enfants. C'est pas la haine des autres, c'est juste l'amour de votre pays. En France, on a perdu ça. En France, quand on est à dire qu'on aime la France, quelqu'un qui dit fier d'être français est tout de suite pris pour un facho. Vous voyez, le terme fier d'être français, ça deviendrait repris par comme si d'ailleurs la France avait un passé fasciste, ce que nous n'avons absolument jamais eu. Donc en plus, on est là-dessus. Et alors je pense que c'est évidemment corrélé avec le fait que les immigrés, quand ils arrivent en France, certains n'ont pas le sentiment de devoir aimer la France, puisque les Français eux-mêmes ne l'aiment pas beaucoup. Mmh. En tout cas, nos politiques ne nous montrent pas, et notamment la gauche et l'extrême gauche, ne nous montrent pas que la France est un pays, je dirais, digne d'être aimé et digne d'amour.
Avec justement ce sentiment d'être français, mais dans la campagne européenne, on a des idées qui s'affrontent sur les territoires. Alors, est-ce qu'on reste sur le territoire national ? Je connais déjà un petit peu votre réponse, mais je vous pose la question quand même sur une notion de territoire national, une Europe des États, ou est-ce qu'il faut basculer vers le fédéralisme ?
Ah bah là oui, je suis pour une Europe des nations, encore une fois. Je pense que beaucoup de, d'ailleurs d'autres nations européennes sont pour une Europe des nations. On est, nous avons une spécificité française, nous ne sommes pas des Italiens, nous ne sommes pas des Espagnols, et pour autant, on a envie de travailler ensemble sur un projet commun. Mmh. Et moi, je suis d'une génération qui est profondément européenne, je veux dire, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait mes études en Espagne, au Royaume-Uni, j'ai été en Allemagne aussi. Je suis profondément européen, je suis profondément convaincu du fait que l'Europe est importante. Je veux dire, encore une fois, quand vous êtes aux États-Unis, vous ne parlez pas en tant que Français, vous parlez en tant qu'Européen, si vous voulez peser un petit peu dans une discussion sur des sujets économiques ou autres. Donc, évidemment, pour autant, il ne faut pas aller trop loin, je pense que sur l'Europe, là aussi, vous avez toute une partie de la frange politique qui est prête à sacrifier les spécificités françaises pour une Union européenne qui, je dirais, lisserait toutes nos différences sans prendre en considération notre culture. Et ce n'est pas un gros mot de dire ça. Et je pense qu'on le voit bien, par exemple, même en Bretagne, on a une culture bretonne, et pourtant les Bretons ne sont pas anti-français, ils sont profondément français. Mmh. Je pense qu'au sein de l'Union européenne, ce doit être la même chose, et ce n'est absolument pas source de tension vis-à-vis des autres, et avec les autres, c'est au contraire un enrichissement. Et c'est ce que dit d'ailleurs très bien François-Xavier Bellamy, qui dit qu'il est d'abord un député français au sein du Parlement européen. Eh bien, je pense qu'il a profondément raison. C'est ce que je défends.
Alors, vous parliez à l'instant, Armelle de Lesquin, de ce lissage de l'Europe. On a de grandes questions aujourd'hui aussi en termes de défense. On a entendu le président de la République s'exprimer plusieurs fois. Il y a d'ailleurs une forme de crainte, de peur. On parle, avec la guerre en Ukraine, évidemment, c'est de cela dont il s'agit. On parle d'une forme de mutualisation de la défense européenne et on pense évidemment à ce qu'on a appelé en son temps la force de frappe du temps du général de Gaulle. Est-ce qu'on bascule là dans une Europe très différente, est-ce que c'est prudent d'un autre côté ?
Alors déjà ça existe, hein. Il y a déjà une mutualisation des forces sur certains points, notamment la brigade franco-allemande par exemple, pour ne citer qu'elle, mais même nos officiers français font des formations, notamment dans le cadre de l'école de guerre, au sein des écoles de guerre des différents pays européens, de manière très régulière. On a des échanges permanent. Donc je peux vous garantir qu'aujourd'hui la France n'est absolument pas isolée et que ce soit même au niveau de l'OTAN d'ailleurs, nos armées sont parfaitement intégrées et savent travailler ensemble. Alors après, faut-il un commandement commun ? Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs, je pense que on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Je ne pense pas que les armées demandent à ce qu'il y ait une armée commune européenne sur lesquelles on abandonnerait toute souveraineté nationale, en l'occurrence française. C'est absolument pas ça, et ça ne nous rendrait pas plus forts. Qu'après, sur la politique d'armement, sur notamment nos achats d'armement, je pense évidemment à ce qui se passe avec l'Allemagne, où on a l'Allemagne qui achète américain.
La Belgique également.
La Belgique, on a mais beaucoup de pays européens. Alors, là aussi, c'est compliqué parce que vous avez d'autres raisons. Vous avez évidemment aussi la capacité de nos industriels français à fournir. Je pense notamment à Dassault Aviation, qui aujourd'hui produit les Rafales de manière, je crois que c'est 2 ou 3 par mois. Ce qui est compliqué, la cadence, il est compliqué d'avoir une cadence supérieure. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que pendant des années, on n'a pas investi dans notre industrie de défense. On paye aussi les pots cassés d'années, voire de décennies, de désinvestissement massif de notre industrie de défense. Et aujourd'hui, quand on doit monter en cadence, eh bien, c'est compliqué. Mmh. Et donc, quand vous avez ensuite des pays européens qui disent qu'ils veulent acheter des matériels, ils regardent aussi le matériel français et ils attendent les dates de livraison et ils se rendent compte que les délais, en fait, sont parfois trop longs. C'est ce qui s'est notamment passé avec l'Allemagne, hein, encore une fois. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, évidemment, une certaine, je dirais... solidarité à avoir entre nous, enfin plus qu'une solidarité, voilà, un travail en commun. Le char du futur, c'est ce qui se passe avec Rheinmetall et avec Nexter. Donc voilà, encore une fois, je pense pas qu'il faille aller forcément plus loin dans une armée européenne qui supprimerait toutes les spécificités et la de nos pays, mais je pense qu'il faut qu'on investisse plus effectivement dans nos industries, oui, ça c'est sûr.
Voilà, la collaboration entre les différents pays voulue par Charles de Gaulle en son temps.
Absolument.
Là encore, avec cette guerre en Ukraine, cette guerre menée par la Russie, j'allais dire cette guerre qui n'en finit pas, la Russie monte toujours un peu dans l'escalade. Et ces craintes, on parle même de Troisième Guerre mondiale, on le lit dans certains éditoriaux de différents journaux. Sans aller jusque-là, est-ce qu'il y a quand même un retour de la guerre en Europe, en tout cas aux portes de l'Europe? Et est-ce que la paix nous a peut-être un peu endormis?
Alors ça, j'en suis de toute façon persuadé, mais il suffit de le voir. Oui, oui, la guerre est aux frontières de l'Europe. Évidemment que... l'Ukraine est une barrière face à une hégémonie russe. Alors là aussi, c'est très compliqué. La guerre en Ukraine, je suis loin d'être un expert. Pourquoi est-ce que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine? Est-ce que ce ne sont que pour des raisons politiques ou de permettre aux citoyens ukrainiens russophiles et russophones de rejoindre la Grande Russie, ou alors est-ce que c'est pour des raisons économiques, parce que l'Ukraine est le grenier à grains de l'Europe? Là aussi, ne tombons pas dans une certaine naïveté. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, comme il y a toujours eu, des pays qui attaquent d'autres pays pour pouvoir s'accaparer les richesses des autres. Et c'est d'ailleurs ce que je pense.
On pensait que c'était terminé en Europe.
Oui, on pensait que c'était terminé. Et en fait, non. Regardez ce qui se passe aussi avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mm-hmm. On a là aussi l'exemple parfait d'un État qui se fait attaquer, envahir par un autre. Et cela, presque dans l'indifférence générale, en tout cas dans notre incapacité à agir. Alors oui, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et la seule manière dont on nous permettra d'éviter et de lutter contre ça, c'est d'avoir une Europe forte. Donc encore une fois, je reviens à votre question tout à l'heure, faut-il avoir une Europe, une armée européenne? Je ne pense pas. Par contre, faut-il avoir des armées européennes fortes? Oui, oui, c'est le prix de notre sécurité. Encore une fois, les Américains, eux, n'ont jamais été dans cette naïveté. Alors, je ne prends pas les Américains pour exemple sur tous les sujets, mais force est de reconnaître qu'eux ont toujours eu un investissement très important dans leur armée, parce qu'ils sont convaincus que c'est le prix de la paix. Et donc, peut-être que la France a péché par naïveté. Vous savez, on a aussi souvent dit l'Union européenne évite la guerre, et c'est parce qu'on crée l'Union européenne qu'il n'y a pas de guerre. Moi, je crois profondément que s'il n'y a pas de guerre en Union européenne, c'est parce que les Européens n'ont pas envie de la guerre, et on ne souhaite pas la guerre. Et ça, c'est un point majeur. Le truc, c'est est-ce que les autres autour de nous ne veulent pas la guerre? Et ça, je ne sais pas.
La question est posée. Ouais. Il nous reste une toute petite poignée de secondes. Je voulais vous entendre là sur quelque chose d'un peu plus politique, et on va vraiment faire très vite. Le président de la République a annoncé hier, un petit peu à la surprise générale, qu'il s'exprimerait jeudi, le 6 juin, sur les affaires internationales et sur la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais on imagine que les questions seront un peu plus politiques. Au journal donc de France 2 et de TF1, il va falloir décompter le temps de parole du président.
Ah, va-t-il falloir... c'est une bonne question, je ne sais pas. Alors là, c'est au CSA de se positionner par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il serait bien que le président de la République s'exprime sur l'état de la France, en tout cas l'état dans lequel il nous laisse la France aujourd'hui. Je note la dégradation de la France par l'agence Standard & Poor's, Bruno Le Maire nous a expliqué tout le week-end dernier que ce n'était pas grave et que ça n'aurait pas d'impact. Je pense que c'est dramatique. Donc je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on continue de challenger le président de la République, et notamment sur celui de la dette qu'il va nous laisser.
On va être obligé de s'arrêter là. Le temps imparti est écoulé, comme on dit. Armel de Lesquin, membre du bureau des Républicains d'Ille-et-Vilaine, en charge de la campagne européenne pour le nord du département. Campagne de François-Xavier Bellamy, bien entendu, également conseiller municipal délégué à Saint-Malo. Vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous en remercie.
Merci beaucoup.
Très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.